Non, mais cette semaine, je me suis mis un gros défi. Regarder plein de films d'action sur les plateformes de streaming. Et quand je me donne un défi, c'est important pour moi d'être à la hauteur. Et j'ai commencé en forme avec The Adam Project, Six Underground et Red Notice. Ouais, une overdose de Ryan Reynolds. J'ai enchaîné ça en allant sur Apple TV et boom, Ghosted et La Fontaine de Jouvence. Un petit tour sur Prime Video pour regarder The Tomorrow War. Retour sur Netflix pour regarder Atlas avec Jennifer Lopez et Lift avec Kevin Hart. Et laissez-moi vous dire que mentalement et physiquement, je suis épuisé. Donc aujourd'hui, je vous parle de l'évolution des films d'action. Et ça commence maintenant.
Soyez cool. C'est marrant.
Commençons par parler des films d'action des années 80 et 90. Vous en avez un en tête, un que vous avez vu des dizaines de fois, que vous connaissez par cœur. Ça y est, vous avez trouvé? Le concept de ces films-là était relativement simple, souvent des body cop movies. Rien de compliqué. Et au début, nos protagonistes ne s'aimaient pas trop. Après, ils apprenaient à s'aimer. Et ça faisait partie de l'histoire, quoi. Oui, l'amitié venait au monde entre nos deux protagonistes. Et là, ils mettaient leurs forces ensemble pour vaincre leur ennemi.
Ça t'est arrivé d'encontrer des gens que tu n'es pas tué?
L'action se passait souvent dans une ville ou dans les alentours d'une ville. Ça arrivait à peu de gens. L'échelle du film était simple, quoi. La police locale s'en occupait. Oui, ils faisaient face à la mafia, à la pègue locale, aux triades, aux yakuza. Parfois un peu de terrorisme régional, mais ça dépassait rarement les limites de la ville. Attention, là, c'était simple, mais pas facile. Une énorme nuance. Et nos protagonistes étaient souvent des flics, des agents du FBI, d'anciens militaires qui revenaient à la maison. Rien de compliqué, encore une fois.
Voici le cauchemar des criminels, un flic qui aime le danger.
Les mecs avaient aussi des défauts, ouais. Ils fumaient, ils picolaient. Parfois, il y avait de l'air de mecs qui n'avaient pas pris de douche depuis 3 semaines.
Ils piquaient, pauvre con.
Ils juraient aussi. Ouais. Ils juraient. Il leur arrivait même de baiser parfois. Baiser. Vous imaginez ça aujourd'hui dans un film? Parce qu'à l'époque, nos protagonistes, c'était des êtres humains normaux, quoi. Ben oui, il n'y avait pas 4% de body fat, il n'y avait pas le vocabulaire d'un récipient du prix Goncourt et il n'était pas asexué. Mais ça, c'était avant.
Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps.
Aujourd'hui, tout a changé concernant ce genre de film-là. Les héros maintenant de nos films d'action, ben, c'est des anciens agents de la CIA, des agents de la CIA, des tueurs à la solde d'un gouvernement. Des ultra-spécialistes capables de faire tout seul, par exemple, d'une main combattre une insurrection armée et de l'autre main hacker dans un des systèmes les plus complexes du monde. Et en plus, leurs histoires ne sont jamais locales. On tombe maintenant dans l'action internationale, OK? Ils voyagent dans les plus beaux endroits du monde et pour nous souligner, on met une chier de plans de drones partout, de Paris, de Berlin, de Prague, de Tokyo, de New York. C'est beau, la vie.
Comment ça se passe avec votre complice?
Et oubliez pas que le protagoniste moderne se téléporte aussi. Ouais. Il est où il a besoin d'être, quand il a besoin d'être là. Peu importe où sur la planète. Vous remarquerez aussi que la plupart d'entre eux vivent une vie de grand luxe. Les grands hôtels, les grands restos, les grands clubs. On est très loin de la caravane de Riggs dans L'Arme fatale ou du chalet en Boiron à Schwartzy dans Commando.
OK, j'ai votre attention.
Et quand ils sont en danger, ben ils sont rarement en véritable danger. Oui, parfois, on pourrait croire qu'ils sont en danger de mort, mais les gars sont trop forts. Il n'y en a pas beaucoup qui finissent leurs films comme John McClane finissait ses films. Voyez ce que je veux dire? Et je vous dirais que les plateformes de streaming sont les champions du monde pour nous présenter des hommes et des femmes presque parfait, se déplacer d'un endroit magique à l'autre continuellement dans un monde d'ultra luxe. Jet privé, première classe. Tout ce que vous et moi, on peut s'identifier facilement à. Et sincèrement, pourquoi faire une histoire dans une ville quand on peut transporter nos héros dans les plus grandes villes du monde, une après l'autre, continuellement?
Il faut qu'on le vole à mi-parcours, à 12 000 mètres d'altitude.
Et comme dans les années 80-90, si nos héros ont besoin d'aide, ben, ils vont trouver quelqu'un qui est souvent l'inverse du héros. Si le héros est sérieux, son partenaire sera frivole. Si notre héros est pragmatique, son partenaire sera bien sûr émotionnel. Comme dans les années 80 et 90, sauf avec beaucoup moins de subtilité.
On est tellement Héloïse.
Non, on n'est pas.
On est des drôles de dames, alors.
On n'est pas des bonnes femmes.
Les femmes ont également pris une place beaucoup plus importante dans les films d'action, oui. Maintenant, elles sont plus que l'intérêt amoureux de nos héros, non. Elles sont capables d'être leur égales. Souvent, elles sont même plus dangereuses que notre héros. Je vous jure. Et là, je vais utiliser un exemple pour démontrer ce que je suis en train de vous expliquer. En 2010, Cameron Diaz, vous vous souvenez de Cameron Diaz? Eh bien, elle, elle a joué dans un film qui s'appelait Night and Day avec Tom Cruise.
À trois, prête?
Le film est très simple et le rôle de Cameron Diaz dans ce film-là est de servir de poisson hors de l'eau. Elle se retrouve face à une série de situations rocambolesques. Et c'est sa réaction à ces situations-là qui rend le film drôle et intéressant. Tom Cruise, lui, fait du Tom Cruise.
Les pilotes sont morts.
J'ai d'abord tué le pilote. Il a tué le copilote, accidentellement.
Elle s'occupe de l'humour dans ce film-là. Elle s'occupe de créer le sentiment d'urgence. Ses réactions font le film. Tom Cruise, lui, tue les méchants. En 2025, c'est le retour de Cameron Diaz avec Back in Action, un film d'action avec qui elle partage la vedette avec Jamie Foxx. Deux personnages qui sont égaux sur presque tous les points, deux machines à tuer.
C'était un truc de dingue.
Donc des personnages identiques, anciens espions de la CIA, qui seront presque pas en danger du film parce que... parce que ces deux anciens espions de la CIA, quoi, des tueurs. On fait donc face à un film sans aucun enjeu. 1h54 de perte de temps totale qui mène à rien. Apple TV, eux, ont essayé de renverser une certaine dynamique en faisant Ghosted, un film avec Ana de Armas et Chris Evans. Un des pires films d'action jamais fait de l'histoire des films d'action. Déjà parce qu'il faut accepter que Chris Evans, dans ce film-là, est une grosse chochotte. Capitaine America lui-même. Et je vous le dis tout de suite, Chris Evans n'est pas assez bon acteur pour nous faire croire qu'il est une chochotte.
Faites pas ça!
Et ensuite, il y a Ana de Armas. Et je reviendrai à Ana un peu plus tard dans la vidéo.
Je vais bien me tenir.
Parce que maintenant, laissez-moi vous parler d'un terme, la suspension d'incrédulité. Un truc que le cinéma moderne veut absolument changer les spectateurs, c'est leur suspension de l'incrédulité. Parce qu'on pouvait accepter qu'un flic de New York se retrouve dans une fête de Noël qui tourne mal à Los Angeles. Parce qu'on pouvait accepter qu'un flic de Chicago se retrouve à travailler avec un Russe communiste. Et à quelque part, on pouvait également accepter qu'une équipe de sauvetage se retrouve face à face avec un extraterrestre dans la jungle. La limite du spectateur, elle est où? Oui, notre limite, là. Elle est où?
C'est moi, l'inventeur du voyage dans le temps.
Oui, le projet Adam.
Combien de copies de Danny Ocean, George Clooney, qui était déjà une copie de Frank Sinatra, êtes-vous prêt à accepter? Qu'est-ce qui reste à voler à un moment donné? Comment ils font que ça soit toujours plus gros, toujours plus incroyable? Et sincèrement, quand vous regardez Kevin Hart, là, entre vous et moi, est-ce que vous voyez... un arnaqueur de niveau mondial.
Mais je suis venu te proposer un marché.
Est-ce que l'histoire de Red Notice, vous y croyez? Même s'il y a The Rock, Ryan Reynolds et Gal Gadot, est-ce que vous y croyez? Non, mais elle est jolie, Gal Gadot. Mais est-ce que vous y croyez?
Vous cherchez un objet en particulier ou vous jetez un petit coup d'œil?
Pensez par exemple à Fast and the Furious. Le premier, c'était un film sur des fans de tuning qui étaient des voleurs à temps partiel qui se passaient à Los Angeles. Sauf que le premier Fast and the Furious, il est sorti en 2001. Il y a 25 ans, ce film-là. Maintenant, pensez au dernier Fast and the Furious. Est-ce qu'on parlait encore de voleurs de DVD et de télé Samsung? Dominique Toretto doit maintenant sauver le monde, quoi. Dominique Toretto doit sauver le monde. Pensez-y à ça deux secondes. En 25 ans, la franchise Fast and the Furious est passée à des voleurs de DVD, à des super-héros capables de sauver la planète. Fast and the Furious. C'est ça aussi la suspension de l'incrédulité. Parce que faut y croire, là.
Ça va péter!
Faut pas se poser la question à savoir si c'est logique. Faut juste accepter qu'on est rendu là, quoi. C'est comme ça et c'est tout. Et moi, je vais vous dire un truc. Selon moi, la suspension de l'incrédulité, ben, c'est un terme qui a été inventé par une compagnie de marketing à Hollywood. C'est un terme équivalent comme « elevated horror » ou « subversion des attentes ». Des termes inventés pour nous dire qu'ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, et qu'on a juste à fermer nos gueules, OK? Parce qu'on nous prend pas pour des cons, non. On suspend notre incrédulité. C'est pas un film d'horreur trop long avec un éclairage pourri et un scénario incompréhensible, non. C'est de l'elevated horror. Est-ce que le film que vous regardez présentement n'a aucun sens et les personnages n'ont aucune logique ou arc narratif? Non! On subvertit vos attentes. Et le terme « suspension d'incrédulité » a été uniquement inventé pour que vous et moi, en tant que spectateurs, on accepte n'importe quoi. Il n'y avait plus d'idées, là. Hein? Donc, ils sont tombés dans des histoires presque fantastiques. Ce qui fait en sorte que ça prend un peu de suspension d'incrédulité pour croire à du fantastique dans un monde réel. Et c'est tout. Non, non, mais on a notre part à faire aussi, hein? Maintenant, laissez-moi vous parler de Sandra Bullock. Sandra Bullock est un excellent exemple dans la vidéo que je fais aujourd'hui. Vous allez voir pourquoi. Sandra Bullock a été découverte grâce à Speed, un des meilleurs films d'action qui ait jamais été fait. Et dans les années 2000, elle avait une super carrière. Elle a même fait deux de ce que je peux considérer comme les meilleurs films d'action. Ils sont dans les meilleurs films d'action, hommes et femmes confondus. C'est deux très bons films de ce genre-là, OK? Le premier, c'est Miss Congeniality ou Miss Détective en VF. Et le deuxième, c'est Les Flingueuses. Deux films qui cochent toutes les cases du genre et qui dépassent même les attentes. Mais aussi deux films bâtis sur mesure pour Sandra Bullock, pour son charisme, pour sa personnalité, pour son star power. Malheureusement pour elle, Sandra Bullock a été victime des temps modernes. Ouais, du cinéma moderne. Ocean 8 ou Ocean 8. Oui, vous vous souvenez de ce film-là, Ocean 8, où ils ont pris tous les personnages d'Ocean's 11 et qui en ont fait des versions féminines. Devinez quoi? Ça n'a pas vraiment marché. Est-ce que le film était nul? Non. C'est pas là le problème. Il était juste moins bon que les trois précédents, quoi. Donc, il était inutile. À quoi sert d'avoir une version diluée de bons films si c'est juste pour y mettre des femmes à la place des hommes? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de voir Sandra Bullock en version de George Clooney? Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de voir Kate Blanchett en version diluée de Brad Pitt? Parce que selon moi, Sandra Bullock a pas besoin d'être la version diluée de personne pour avoir du succès. Elle l'a déjà démontré. Parce que Sandra Bullock, elle est capable de porter un film sur ses épaules. Pourquoi vous écrivez pas un film pour Sandra Bullock, bande de troglodytes? Et il devrait savoir que changer les hommes pour les femmes, c'est un concept qui fonctionne pas. Demandez à Ghostbusters de 2016. Ghostbusters, ça ferait un bon sujet de vidéo dans ce genre-là, vous voyez? Parce que quand ça marche pas avec des femmes, Ghostbusters, ils essayent avec des enfants. Et maintenant, je vous parle un peu de John Wick. Oui, John Wick, quand c'est sorti, ça a créé un renouveau palpable dans le modèle d'un film d'action. tout le monde a commencé à créer des scènes d'action à la John Wick. Ça ressemblait à du John Wick. Tout le monde qui ont travaillé sur le film John Wick se sont retrouvés à réaliser plein d'autres films qui ressemblaient à John Wick. Dans les dernières années, ils ont décidé de faire une version féminine de John Wick avec Ballerina, interprétée par Anna de Armas. Est-ce que c'est un bon film, Ballerina? Ben, c'est moins bon que John Wick. Est-ce que John Wick fait une petite apparition dans le film pour donner un peu de crédibilité à l'histoire? Absolument. Est-ce qu'on aurait survécu en tant que race si on n'aurait jamais eu Ballerina, une version féminine de John Wick? Eh bien, je pense que oui. Ça aurait fait mal, mais on s'en serait sorti. Et bien sûr que Anna de Armas, elle est belle et charismatique. C'est une star du cinéma. Anna de Armas, là, c'est pas la fille d'à côté qui travaille à la supérette. Elle gagne sa vie en étant belle, photogénique, charismatique, charmante. C'est son métier. Donc, pour apprécier ce film-là, ou pour apprécier Ghosted avec la même actrice, eh bien, faut accepter l'idée qu'une fille de 42 kilos et d'1,58 m est capable de bastonner des mecs pendant 2 heures. Ça aussi, c'est un concept moderne. Où on doit accepter que peu importe la femme dans le film, peu importe sa taille ou la circonférence de ses biceps, elle est capable de se battre contre les hommes les plus forts au monde facilement. Gal Gadot est capable de mettre des tatanes à The Rock. Et sans passer pour un énorme miso, je vous dirais que y a un truc qui s'appelle la génétique, OK? Il y a des raisons pourquoi les hommes ont plus de muscles que les femmes. Et malgré le fait que certaines femmes fortes soient capables de battre des hommes faibles, les hommes forts ont tendance à battre toutes les femmes. En combat, bien sûr. Pas pour le plaisir. Et pour vous donner un exemple des années 80 de femmes qui faisaient des films d'action, pensez à Cynthia Rothrock. Elle, on y croyait, parce que c'était une experte en arts martiaux, pas une actrice qui apprenait une chorégraphie. Les chorégraphies, ça commence à faire, là. Et maintenant, la conclusion. Je pense que vous vous rendez compte, avec ce que j'ai essayé de démontrer, que les choses ont vachement changé, quoi. C'est plus comme avant. Et je me suis longuement posé la question, mais qui est à blâmer pour tout ça? Déjà, je pense que les films de super-héros ont totalement redéfini les enjeux d'un film. Pas juste les enjeux, les protagonistes aussi, parce que si tu mets en scène un flic de Chicago qui fait un peu de bide, qui picole et qui baise, ça va être vachement dur pour lui de compétitionner avec Captain America et Superman. Donc, j'imagine que les producteurs de films se sont dit « on doit maintenant augmenter les enjeux, sinon on va passer pour des chachottes ». Si dans un film de super-héros, il sauve la planète, eh bien, il faut trouver une manière que notre personnage sauve la planète aussi. C'est super simple. Au lieu que ce soit un flic qui sauve sa femme dans un gratte-ciel rempli de terroristes, eh bien, il va sauver le monde. Et là, on va passer d'une scène d'action à une autre scène d'action remplie d'effets numériques abstraits et génériques. Les enjeux simples, c'est pour les débiles. Faut sauver l'univers. Et inquiétez-vous pas parce que les gens vont y croire parce que ça sera plus un simple flic. Ça va être un agent de la CIA, un ancien agent de la CIA, un gars des forces spéciales, ou peut-être les deux, pourquoi pas? Et je suis sûr que dans un meeting, il y a un mec qui a dit « T'es sûr que les gens vont croire à ça? » Mon gars, on va suspendre l'incrédulité. Le spectateur va avoir sa part à faire pour que le film marche. Parce que si on trouve le bon terme et qu'on leur dit de croire à n'importe quoi grâce à ce thème-là, ben ils vont y croire. Et tu sais quoi en plus? Eh bien, on va éliminer le langage cru, le cul, le sang, et on va faire que des films PG-13. Attends, là. Si on enlève le langage, le cul puis le sang, on va mettre quoi à place? Ben, c'est pas compliqué, mon grand. On va mettre de l'humour. De l'humour forcé. À chaque gros moment de tension, de l'humour. À chaque moment où on pourrait croire que le spectateur va aller regarder son téléphone, de l'humour. Si jamais, là, on se retrouve dans le film où on pourrait croire que le protagoniste principal est dans une situation où il pourrait mourir, on met de l'humour. il va falloir éliminer les nuances aussi. Les nuances, surtout chez les antagonistes, là, chez les méchants, les nuances, ça nous aide pas. Ça mélange le monde quand ils regardent un film. Donc, on va vraiment s'assurer que les méchants dans nos films, il n'y ait plus aucune nuance dans leur personnage. Comme si on s'adressait à des enfants. Et quand on va faire le casting, on va choisir des acteurs qui n'ont pas vraiment besoin de jouer. Des gars et des femmes, acteurs, mais surtout des personnalités connues qui peuvent amener leur personnalité à l'écran sans avoir à jouer. Parce que jouer, c'est compliqué. Parce que si dans le temps, là, Bruce Willis pouvait faire Die Hard et 12 singes, tant mieux pour lui. Si Mel Gibson était capable de faire L'Arme fatale et Braveheart, tant mieux pour lui aussi, mais c'est plus ça qu'on veut. Prends un gars comme Ryan Reynolds maintenant. Ryan Reynolds, que tu le vois en entrevue, que tu le vois sur Instagram, que tu le vois sur TikTok ou que tu le vois dans un film, c'est le même Ryan Reynolds. Oui, t'as le sentiment que tu le connais et que tu fais juste le voir dans un film. Le terme acteur, faut vraiment commencer à éliminer ça de notre vocabulaire. Et là, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui a levé la main pour dire « Ça va pas écœurer le monde à un moment donné de voir toujours les mêmes acteurs faire le même rôle, jouer le même personnage de film en film? » Non. Tu t'inquiètes pour rien. Ils s'en rendront jamais compte. Dans les années 80, les action stars, les actionneurs, c'était simple. Schwarzy, Stallone, Van Damme, Seagull, Harrison Ford, on savait ce qu'on allait avoir. On allait les voir, ils jouaient pas toujours le même personnage, mais ils jouaient dans la même gamme, on va dire. Avez-vous confiance en Vin Diesel, The Rock, Ryan Reynolds, Gal Gadot, Anna de Armas et Charlize Theron, vous? C'est une question valable. Et là, je vais mettre un peu de positivisme, parce qu'en 2026, je vois une mince lueur, OK, à l'horizon. Trois films sont sortis en 2026 qui me font croire que les plateformes ont compris. Ont compris que les films copient de mauvais blockbusters avec des budgets de fous 100-200 millions, c'est pas ce qu'ils savent faire. Trois films qui me redonnent espoir. The Rip avec Matt Damon et Ben Affleck, The Wrecking Crew avec Jason Momoa et War Machine avec Alan Ritchson. Ces trois films qui ne sont pas parfaits, mais c'est trois films simples, et je vous dirais que c'est trois films qui auraient pu sortir en 1996. Trois films efficaces, trois films qui s'adressent à un public adulte, trois films d'action, trois bons divertissements. Le cinéma n'a pas le choix de s'adapter parce que le cinéma est motivé par les profits. Et là, quand je dis que le cinéma est motivé par les profits, je vais mettre une astérix sur le cinéma français et le cinéma québécois. Parce que eux, comme ils gaspillent pas leur propre pognon, le profit, c'est secondaire. Mais les Américains, eux, ils aiment ça, l'argent. C'est beau d'en faire. C'est important que les gens aient du plaisir à regarder leur divertissement. Et nous, si on veut plus de bons films venant des plateformes de streaming, qu'est-ce qu'on a à faire? Ben, c'est super simple. Faut juste arrêter de regarder les beaux sans nom qui nous sortent et focusser notre temps d'attention sur les bons films. C'est vraiment pas compliqué.